Allô? Ah, voilà, ça y est. Très bien. Donc bonjour à tous. J'espère que pour l'instant vous vous amusez bien. Donc j'ai vu que la dernière conférence était vachement technique. Ça va pas être le cas de la mienne. On va parler un peu de technique, mais je vais surtout vous parler de moi. Donc je m'appelle Gaël Pagrimaud et je suis l'un des membres fondateurs de l'AFPI. L'AFPI étant l'association francophone Python, qui a été créé il y a quelque chose comme 12 ans. Et donc ça vous donne une idée depuis combien de temps je fais du Python, à peu près depuis 14 ans. Donc je suis tombé amoureux de ça et j'ai plus jamais lâché. Alors 3615 2.0 ma vie, j'ai mis 2.0 parce que mes slides sont sur GitHub, donc c'est un exemple parfait du Minitel 2.0. Donc j'ai vécu à peu près 15 ans à Paris, enfin, je suis arrivé à Paris il y a 15 ans, et puis j'ai fait diverses boîtes. Je me suis mis à faire du Python, j'ai fait plein de boîtes qui font du Python, des bonnes, des moins bonnes. Et puis, il y a 5 ans, j'ai reçu un email disant, un email d'un certain Olivier Lorelli, que vous connaissez peut-être, disant quel est le meilleur développeur Django qu'on puisse recruter. Alors, j'ai été très flatté d'abord. Et puis, ce mail venait de Beersec, qui est donc la boîte dans laquelle je travaille depuis 5 ans, qui est une coopérative d'ingénieurs. C'est très important. Et puis ma vie ressemblait à ça, c'est-à-dire que je faisais du skate dans des skateparks blindés de gamins que je manquais de tuer toutes les 5 minutes. Et puis quand j'ai fait mon entretien chez Beersteak, on m'a demandé pourquoi je voulais aller chez Beersteak. Et en fait, l'un de mes intérêts, c'est qu'ils ont une culture de télétravail qui est assez énorme, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 3-4 personnes à Paris et 16 salariés en tout. Tous les autres sont répartis dans la France, partout. Et donc, moi, j'avais envie de bouger de Paris à un moment ou à un autre. Et donc, voilà. Donc, je voulais devenir mobile. C'est-à-dire, grosso modo, je vivais dans un appart à Paris et ma mission, c'était que ma vie tienne dans la voiture que je comptais acheter, qui est une petite voiture en plus. Donc, j'ai tout viré. Les meubles, etc. Plein de matos électroniques qui traînaient. On a tout ça, des caisses entières de câbles, etc. J'ai tout viré. Et il me restait grosso modo un vieux MacBook, un vieil Android et un téléphone VoIP. Donc j'avais plus de réveil non plus. C'est un point important. Et du coup, je suis parti de Paris en mai dernier. Et j'ai été SDF de mai à septembre. Alors SDF, ça ne veut pas dire que je dormais sous les toits, ça veut dire que j'ai voyagé un peu partout. Je faisais des Airbnb et j'ai aussi fait des conférences comme les RMLL ou Europython à Berlin. Et puis au bout d'un moment, quand même, bouger tout le temps, c'est fatigant. Alors je me suis posé un peu. Et je me suis posé là. Donc là, je suis sorti de chez moi, j'ai fait 650 mètres et j'ai pris la photo. Ça change un peu de vie, donc c'est à Pornichet, en Loire-Atlantique. Du coup, j'ai plus de vie sociale, parce que quand on arrive dans un petit bled où, en plus, l'hiver sur la côte, il n'y a personne, qu'on fait du télétravail, donc on n'a pas de collègues qu'on rencontre, etc. Donc voilà, on n'a plus de vie sociale, on ne sort plus, parce que c'est pareil, on s'en fout. J'ai plus de meubles, plus rien, mais par contre, j'avais plein de temps. Donc, j'ai fait du Python, quoi. Vu que je suis un geek, ça tombait parfaitement bien. Voilà. Bon, je me suis aussi mis à faire du surf quand même, hein, parce que du coup, moi qui étais skateur, en habitant à côté de la mer, autant faire du surf. Vous voyez que je suis aussi bricoleur, puisque le porte-surf est fait en PVC, par mes propres mains. Voilà. Et il s'est trouvé que. Donc là, je vais rentrer dans la partie technique, tout ça pour arriver là. Donc, il s'est trouvé que c'est tombé à peu près à ce moment-là où a été introduite une librairie dans Python qui s'appelle async.io et qui permet de faire des traitements asynchrones, sans code spaghetti. Alors, j'ai un petit exemple pour montrer ce que c'est que l'asynchrone. Donc, le premier, c'est un cas synchrone, c'est-à-dire que vous êtes dans un seul thread, enfin, il n'y a rien, quoi, grosso modo, un programme s'exécute à la suite. Donc vous avez une application avec une première requête en jaune qui va être traitée, puis au milieu il y a un appel à la base de données, puis une deuxième requête qui va être traitée avec un appel à la base de données au milieu. Et du coup les deux sont traitées les unes à la suite des autres. Et puis vous avez l'exemple asynchrone où du coup la première requête va commencer à être traitée, et pendant que vous faites un appel à la base de données, il va pouvoir traiter la deuxième. Ensuite, une fois que la première a fini, il a le résultat de. Enfin, une fois que l'appel à la base de données est fini, il peut reprendre la première L'autre, pendant ce temps-là, fait son appel, etc. Et vous constatez qu'au final, on gagne du temps. Alors, maintenant, qu'est-ce que le code spaghetti? Puisque je vous ai dit qu'on évitait le code spaghetti. Bien, le code spaghetti, ça ressemble à ça. Vous voyez que très vite, on ne voit plus à la fin de l'écran, parce qu'on imbrique des trucs, des fonctions dans des fonctions dans des fonctions, et ça devient très dur à lire, très difficile à débugger, etc. Moi, JavaScript étant un langage que tout le monde utilise, au moins dans le web, hélas, puisque en Python, maintenant, ça donne ça. Donc vous voyez que tout de suite, c'est carrément linéaire, c'est un programme lisible, compréhensible, etc. Et en fait, le principe, c'est que donc dans Python 3.4, il y a le mot-clé yield from qui a été introduit. Et la librairie async.io fait que lorsque vous utilisez yield from, si à l'intérieur de ce que vous appelez, il y a un appel bloquant, le programme va faire d'autres tâches pendant que cet appel est bloqué, puis lui rendre la main quand il obtient un résultat. Donc là, c'est exactement le même code. Enfin, bon, j'ai fait ça, je suis pas sûr que ça marche dans la vraie vie, mais ça fait la même chose. Vous voyez, il y a des get, il y a un get, un post, et un timeout qui attend une seconde, et après on fait une requête, quoi. Et là, ça fait exactement la même chose. Du coup, de façon vachement plus lisible. Et donc, moi, j'ai joué avec ça. Et un cas d'utilisation typique, c'est l'IRC. Parce que vous passez votre temps à attendre et envoyer des messages et attendre qu'on vous en envoie. Donc vous pouvez faire des choses pendant le temps que vous attendez. Quoi. Donc j'ai fait IRC3, qui est une librairie. Si vous envisagez de faire un robot IRC, je vous la conseille fortement. Elle est vachement bien foutue. J'ai aussi fait Panoramisk. Je ne sais pas si vous connaissez Asterix, que c'est un... c'est pour faire de la VOIP, grosso modo. C'est-à-dire que ça vous permet de gérer un PABX privé, quoi, grosso modo. Donc vous pouvez appeler des gens de façon programmatique, etc. Et donc c'est pareil, on passe son temps à écouter sur une socket, donc à attendre des choses. Et async.io est très adapté pour ça. Et puis j'ai fait une librairie qui s'appelle IOCron, qui permet, en utilisant une syntaxe de crontab, de lancer des fonctions au moment où le cron se déclenche. Donc des fonctions Python, pour le coup. Voilà. Donc ça, c'est les trois projets que j'ai fait pendant que j'avais plus de vie sociale. Et du coup, eh ben, j'ai fait le meilleur réveil du monde avec tout ça. C'est-à-dire que chez Birsec, on a un IRC privé, on est tous en télétravail, on utilise beaucoup l'IRC pour communiquer. L'IRC, c'est un chat, hein, si vous ne connaissez pas. J'ai aussi une machine virtuelle, donc hébergée chez Birsec aussi, gracieusement offerte. Et j'utilise Temux et IRSSI pour être connecté 24 heures sur 24 à ce serveur IRC. On a aussi un serveur Astérix, puisque du coup, étant aux quatre coins de la France, quand on communique par téléphone, ça ne nous coûtait rien, c'est quand même pratique. C'est de la VOIP. J'ai donc un téléphone VOIP quand même que j'avais gardé, puisque ça me sert professionnellement aussi. Et puis j'ai combiné IRC3, IOCron et Panoramisk pour me faire un réveil. Comment ça fonctionne? Donc ça, c'est le chat qu'on utilise. Gawel, c'est moi, et Amandine, c'est le nom de mon serveur et du robot. Donc on peut lui taper des commandes qui sont précédées d'un point d'exclamation. Vous voyez qu'il y a une aide, il peut dire depuis combien de temps il est connecté. Et puis il y a une commande alarme que j'ai créée. Du coup, je peux lister les alarmes. Vous voyez qu'en bas, j'ai mes alarmes. Donc, il y a celle du matin. C'est le matin traditionnel où je me réveille à 9h. Tout va bien. Et puis, il y a des jours où il y a des vagues le matin. Donc, j'ai des alarmes spéciales pour ça. Et puis, donc, on peut définir une nouvelle alarme avec alarme 7, un nom d'alarme, une target. Donc, la target étant Astérix, c'est un pseudo, enfin, quelque chose qui va appeler de la VOIP. Ça peut être un numéro de téléphone. Et puis, un cron. C'est pour ça que le cron est utile dans ce cas-là. Donc vous voyez, bah, voilà, 9h, 6h, 7h, etc. Une syntaxe de cron. Et puis vous voyez qu'il y a un idle à la fin. C'est assez important, parce que du coup, après, il se passe ça le matin. Vous voyez qu'il est 9h. C'est les logs du robot IRC, c'est ça. Donc il est 9h. L'alarme matin démarre. Elle vérifie que je suis sur l'IRC à l'aide de la commande JSON, c'est des commandes de réseau. Des commandes IRC plutôt. Si je suis sur l'IRC, elle fait un WHOIS, donc le WHOIS étant la fiche d'identité de la personne sur l'IRC. Et dans cette fiche d'identité, vous avez l'idle, c'est-à-dire votre temps d'inactivité sur l'IRC. Et ensuite, l'alarme se déclenche, donc ça sonne. Et comment ça sonne? Et ben, ça utilise Panoramisk pour appeler le serveur Astérix et faire sonner mon téléphone VoIP. Donc ça me réveille le matin. Donc, vous voyez qu'il y a deux sonneries parce qu'en fait, je m'appelle moi-même. Du coup, la première sonne pendant 15 secondes. Et puis la deuxième, je l'annule parce que la première m'a déjà réveillé, c'est pas la peine. Voilà. Et du coup, vu que ça check l'idle le temps d'inactivité, eh bien, si je suis déjà réveillé à 9h, que j'ai déjà dit bonjour à mes collègues, bah, le réveil ne sonne pas du tout. Ce qui est quand même vachement appréciable. Et voilà, c'est tout ce que j'ai. Et donc, je vous ai mis quelques liens. Donc, il y a le lien vers la librairie standard à 5io. Je ne suis pas trop rentré dans les détails parce que c'est assez magique comment ça fonctionne, mais il y a Victor Steiner qui a fait une présentation à Python.fr. C'est basé sur une boucle d'événements, en fait. Et il a fait, grosso modo, il explique comment la boucle d'événements fonctionne. Et c'est vachement intéressant, même si vous vous intéressez aux boucles événementielles, si vous voulez savoir comment ça marche, parce qu'elles fonctionnent un peu toutes pareilles au final. C'est très, très bien fait et très complet. J'ai mis le lien vers ma librairie IRC qui vous permet de créer un robot IRC vraiment en 2 secondes, puisqu'il y a une template de départ. Donc en 2 secondes, vous avez un truc qui marche. Et après, vous pouvez créer vos commandes, tout est vachement pluggable, etc. Et les liens vers ces slides sur le Minitel 2.0. Et voilà. Je pense qu'il y a du temps pour des questions. J'ai coupé ? Non, c'est bon, vas-y.
Je veux juste savoir, parce que nous, on utilise Twisted et la compatibilité entre A5io et Twisted. Okay.
Alors, la question est de savoir la compatibilité entre A5io et Twisted. Twisted étant une librairie Python qui permet aussi de faire plus ou moins de l'asynchrone. En fait, il y a plein de librairies en Python qui permettent de faire de l'asynchrone. Et le but d'A5io est de fournir une implémentation de base reconnue pour faire de l'asynchrone. Et en fait, tout le monde va se greffer dessus. Il y a des chances que tout le monde se greffe dessus, c'est le but. C'est-à-dire qu'il y a G-Event, Twisted, etc. Ils vont tous implémenter une event loop qui va être compatible à 5io et normalement, ça devrait être compatible à terme. Je ne connais pas le statut, honnêtement. Ça fait des années que j'ai pu utiliser Twisted. Mais bon, voilà. Et justement, le but, c'est vraiment de fournir une implémentation de base, puisque chacun faisait son truc dans son coin, justement, Twisted, J-Event, etc. Et que c'était un peu le bazar pour faire de l'asynchrone en Python. Pas d'autres questions? Très bien, je rends la main.